elle suit le comportement alimentaire de, mettons, 20 000 ou 30 000 personnes pendant 20 ans, et on examine leur état de santé régulièrement. Et là, ça nous donne une image un petit peu plus précise, même si ça ne permet toujours pas de dire il y a lien de cause à effet, ça nous donne quand même quelque chose de plus précis. Nous avons aujourd'hui à notre disposition plus d'une centaine d'études de ce type-là, qui ont regardé pendant X années ce que consommaient vous, vos collaborateurs, et qui ont regardé ce qui se passait en termes d'état de santé. Lorsqu'on analyse l'ensemble de ces études, il y a des études qui montrent que le lait, c'est quelque chose de bien. Des études qui montrent que le lait, au contraire, c'est quelque chose de mal. Lorsqu'on analyse globalement les résultats de ces études, ça s'appelle des méta-analyses en épidémiologie, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune relation entre le fait d'avoir consommé beaucoup de laitage ou en consommer beaucoup et le fait d'avoir des os solides. Donc, c'est à partir de ce type de preuves que, en science, on doit se déterminer. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, parce qu'on est responsable de santé publique, de dire « vous devez consommer des laitages et vous aurez des os en meilleure santé ?» Si on est capable de le dire, c'est qu'on doit justifier de ce discours. Or, aujourd'hui, c'est impossible. Je me défie n'importe qui.
Est-ce qu'il y a des études françaises dans les études justement dont vous parlez dans le livre ?
Il n'y a absolument aucune étude française.
Pour quelle raison ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas de tradition d'épidémiologie en France. Ensuite, la nutrition, c'est la dernière roue du carrosse en France. Donc, on ne s'est jamais préoccupé de monter ce type d'études. Donc, que font les experts français, ministère de la Santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ? Ils interprètent des résultats qui ont été obtenus dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Or, quand vous interprétez, vous amenez dans l'interprétation vos propres a priori, votre formation, vos liens, puisque beaucoup de ces experts travaillent pour l'industrie laitière. Et donc, l'interprétation ne suffit pas. Moi, ce que j'ai fait dans Les mensonges et propagande, c'est me rapprocher des gens qui ont mené des études, leur donner la parole, et lorsqu'on leur donne la parole, ils disent « on ne peut pas aujourd'hui faire ce type de recommandation ». Et même certains, je parle du professeur Ouellet de Harvard, dit « il est aujourd'hui irresponsable de faire ce type de recommandation ».
Alors, on verra pourquoi avec vous, ce livre qui contredit donc les messages du programme national Nutrition Santé, avec ses recommandations, 3 à 4 laitages par jour. Alors, évidemment, les auditeurs de La Tête au Carré vont pouvoir apporter, pourquoi pas, la contradiction, vous poser des questions, faire des commentaires sur le site. Alors, juste un premier message de Philippe, le lait venant du sein de la mère est-il également compris dans le lot des mensonges et des propagandes?
Non, évidemment non. Nous sommes génétiquement faits pour... nous sommes des mammifères. Hein. Nous sommes génétiquement faits pour prendre le lait de la maman, et c'est la meilleure nourriture qui soit pour l'enfant. Simplement, notre espèce, celle des primates, chez tous les primates et chez tous les mammifères, la consommation de lait s'arrête. Pour l'homme, c'est à l'âge de 3-4 ans, traditionnellement. Donc, pousser cette consommation en utilisant le lait, qui est un aliment biologique très particulier, qui est destiné à la croissance, et faire comme nous l'avons fait, et l'introduire dans notre alimentation à dose très élevée, eh bien, c'est peut-être un peu ouvrir une boîte de Pandore.
Thierry Soucard, vous restez avec nous, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Je reçois cet après-midi Thierry Soucard autour d'un livre « Les mensonges et propagande ». Vous êtes journaliste scientifique et ce livre dénonce le lobby laitier, les nutritionnistes qui nous encouragent, selon vous, à consommer trop de produits laitiers, ces produits qui seraient du coup responsables de maladies chroniques, au lieu de préserver notre santé. Thierry Soucard, vous avez commencé à nourrir des doutes sérieux sur le caractère indispensable des laitages.
Pendant plusieurs années, j'ai fait comme mes confrères, c'est-à-dire que j'ai relayé le message que j'entendais, et puis il y a une dizaine d'années, je me suis rapproché des gens de Harvard, l'université de Harvard, qui est la plus grosse équipe de nutrition au monde. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux, parce qu'ils étaient en train de publier des données portant sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vraiment remettaient en cause ce que je disais et ce que j'avais lu jusqu'à présent. Et ces discussions, elles se sont multipliées ces dernières années. D'ailleurs, les deux derniers livres que j'ai écrits, je les ai écrits avec leur collaboration. Ce livre a été écrit avec la collaboration de toute l'équipe de Harvard. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on entend dans les congrès en tant que journaliste scientifique, ou ce qu'on entend de la part des chercheurs, et ce qu'on lit ensuite, et ce qu'on entend de la part des nutritionnistes. Et moi, mon rôle, c'est quand même de dire au public, voilà ce dont je suis le récepteur, le réceptacle en quelque sorte, et voilà ce qu'on dit dans les congrès qui ne franchit jamais les portes des congrès.
Alors, quelques chiffres d'abord que vous donnez. L'industrie laitière représente 20% du chiffre d'affaires des industries agroalimentaires françaises. Elle emploie directement 180 000 personnes. C'est également le premier annonceur publicitaire de l'agroalimentaire.
Oui, et il faut savoir que l'industrie agroalimentaire en France, c'est l'industrie agroalimentaire française, c'est la deuxième industrie agroalimentaire en termes de chiffre d'affaires au monde, après l'industrie agroalimentaire américaine. C'est énorme. Comment voulez-vous que des messages nutritionnels échappent à ce poids économique? C'est impossible, c'est impossible. C'est 140 milliards d'euros.
Alors comment le lait de vache d'abord est arrivé dans l'alimentation humaine? On va remonter un petit peu le temps.
Oui, alors remontons, c'est très intéressant.
Arriver à vos conclusions.
Les nutritionnistes nous disent, ah ben oui, mais le lait c'est consommé depuis l'aube des temps. Alors c'est quoi l'aube des temps? Les primates, c'est plus de 60 millions d'années. 60 millions d'années, nos ancêtres primates. L'espèce humaine, c'est 7 millions d'années. Pendant 7 millions d'années, l'homme ne consomme pas de laitage, puisque les laitages arrivent dans une partie du globe seulement, il y a 6 000 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Asie, par exemple, ça fait 7 millions d'années que les Asiatiques, si on remonte à cette genèse de l'espèce humaine, ne consomment pas de laitage.
Alors, il y a 6 000 ans, on a retrouvé des traces
Il y a 6 000 ans, on a trouvé dans des poteries des traces, en Angleterre notamment, des traces d'utilisation de laitage. Et 6 000 ans, c'est très peu. C'est très peu sur 7 millions d'années.
Alors, vous racontez ensuite que jusqu'à la fin du 19e à peu près, le lait n'était pas très populaire.
Non, on mange un peu de fromage. Et puis, vous savez, l'Europe est divisée en deux. Il y a d'un côté la civilisation à l'époque antique, celle des Romains et des Grecs, qui consomment un petit peu de fromage, mais surtout beaucoup de végétaux. Et puis vous avez ce que les Romains appellent les peuples barbares du Nord, qui sont les consommateurs de lait, qui sont les éleveurs, qui sont aujourd'hui en Allemagne, en Scandinavie.
Alors à partir de quand justement ensuite le lait a réussi à s'imposer dans l'alimentation?
Alors le lait arrive surtout à partir du moment où technologiquement on est capable d'assurer une certaine stabilité du lait et on est capable de lui donner des qualités qui permettent d'éliminer des microbes. Voilà, donc c'est vraiment très récent, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e. Et on voit l'industrie laitière se développer vraiment à cette charnière-là, il y a très très peu de temps.
Avec l'arrivée des frigos, évidemment.
Avec l'arrivée des frigos.
Dans les familles. Alors, le marché de la petite enfance a tout de suite intéressé l'agroalimentaire avec le lait. Hein.
Tout de suite. Ils ont très bien compris que les habitudes alimentaires, à l'âge adulte, elles se créent dans l'enfance. On les hérite de ce qu'on a consommé quand on était jeune. Et ils ont ciblé très rapidement, c'est vraiment une offensive des coopératives laitières de l'époque, que de tenir au gouvernement anglais d'abord, et puis ensuite américain et européen, ce discours selon lequel les enfants risque d'être mal nourri, qu'il faut faire des efforts dans ce sens. Mais ces efforts, ils portent pas sur le fait de leur fournir des fruits et légumes, mais de leur amener du lait.
Alors, vous citez un certain nombre d'exemples. D'abord, en Angleterre, aux États-Unis, on parlera de la France ensuite. Dès 1934, le marketing anglais organise le Milk Day, donc le jour du lait, qu'on présente comme l'aliment idéal, déjà.
Oui. Hein. Alors, il est blanc, déjà. Donc, déjà, il a tous les atouts et les apparats de l'idéal, du caractère idéal d'un aliment. Et puis, ensuite, on va le parer de toutes les vertus. On va commencer à dire qu'il y a des protéines dedans. À l'époque, on parle beaucoup de protéines parce qu'on vient de découvrir un petit peu ce que c'était, ce que ça faisait. On a l'impression que tout le monde manque de protéines, comme aujourd'hui on a l'impression que tout le monde manque de calcium, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a trop de protéines dans l'alimentation, notamment de protéines animales. Mais à l'époque ça va faire tilt, et ensuite il y aura toute l'histoire du calcium. Alors là c'est une histoire extraordinaire.
C'est ce qui a fait revenir un peu le lait qui était en perte de vitesse dans les années 60, c'est ça? Et puis ensuite on a parlé du calcium.
Voilà, tout d'un coup on s'est aperçu, et alors conjointement l'industrie surtout qui a poussé, pour dire on est en carence de calcium, et le calcium c'est très important. Comme il y a du calcium dans l'os, il faut bouffer du calcium. Mais vous savez, votre cerveau, il a besoin de 300 grammes de glucose par jour. C'est un peu comme si on disait, le cerveau a besoin de sucre. Plus vous mangerez de sucreries, plus vous serez intelligent. C'est un peu ça, quoi.
Alors, en France, à quand remontent les premiers messages pour encourager la consommation de lait dans le pays?
Eh bien, également dans les années 30, puisque il y a un office de la propagande du lait qui se crée en France pour faire la promotion du lait. Et très très tôt, avant la guerre, Pierre Mendès France, qui à l'époque est député de l'Eure, va être persuadé que le lait, c'est l'aliment rempart contre l'alcoolisme. Sa grande crainte, c'est de voir les jeunes Français s'abîmer dans la consommation d'alcool. Et il va donc utiliser le lait comme vecteur, comme contre-feu, en quelque sorte, de cette consommation.
Donc ça, c'est la France de l'après-guerre.
Ça, c'est la France d'avant-guerre, et ensuite...
54, hein. Moi, je parle de 54.
Oui, mais Pierre Mendès-France commence déjà à introduire le lait dans les écoles de son département, avant la guerre, et ensuite, il va de nouveau très influencé par ce qu'il voit aux États-Unis, parce qu'il est très américanophile, quelque part, très influencé par ces jeunes adolescents bien propres, bien peignés, qu'on voit dans les films des années 50, qui boivent du lait dans les mix-bars, et il veut importer ce modèle-là en France.
Et il fait la même chose dans les écoles françaises.
Hein. Et il va introduire le fameux lait à l'école, qui à l'époque, on l'a oublié aujourd'hui, s'accompagnait de sucre. On considérait qu'il fallait à la fois des protéines, c'était le lait, et de l'énergie, et on pensait que pour l'énergie, il fallait bouffer du sucre.
Alors le calcium, donc ça c'est les années 60, ce message autour du calcium a été orchestré de quelle manière à l'époque ?
Alors, de manière, encore une fois, là on voit l'arrivée des médecins dans le champ de la nutrition. Jusqu'alors, la nutrition, c'est une discipline des biochimistes. C'est eux qui l'ont inventée. Et tout d'un coup, les médecins vont se préoccuper, vont s'accaparer, en quelque sorte, du champ de la nutrition, au point qu'aujourd'hui, quand on dit nutritionniste, on pense médecin. Et pour eux, pour les médecins, très souvent, les messages de biologie, de biochimie sont trop compliqués. Il faut les édulcorer. Et donc, ils vont édulcorer le message os-calcium, en disant il y a du calcium dans l'os, il y a du calcium dans le lait, donc si vous consommez du lait, vous aurez du calcium dans vos os. Voilà ce sur quoi on a fondé tout un tas de croyances qui perdurent aujourd'hui.
Donc et ça, ce sont les fédérations de production laitière qui sont à la barre du message autour du calcium.
Oui, et très tôt, par exemple dans le gouvernement de Pierre Mendès-France, figure le papa d'un de nos anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, qui lui est l'un des grand dirigeant d'une coopérative laitière et qui déjà est conscient du fait que à côté des arguments purement de soutien de la production agricole, ces arguments santé peuvent faire leur chemin dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Français, dès les années 50.
Alors 1981, c'est le CIDIL, c'est le Centre Interprofessionnel de Documentation et d'Information Laitière. Ce centre est créé à cette époque dans quel but ?
Alors, c'est un centre, c'est une organisation qui est créée par l'industrie pour faire la promotion des laitages, et notamment, là, on commence réellement à se préoccuper de l'aspect sanitaire, et de se dire, ça ne suffit pas de dire aux gens, buvez du lait, mais on va leur dire, vous allez boire du lait, parce que c'est bon pour votre santé. Et on va petit à petit réussir à intoxiquer les nutritionnistes français. Et on sait aujourd'hui, je pourrais vous donner quelques exemples, que les personnes qui font des recommandations en France, au ministère de la Santé notamment, et puis à l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ont des liens extrêmement étroits avec l'industrie laitière.
Voilà, ce que vous dites, c'est que l'industrie, finalement, a ses entrées dans les organismes officiels de santé publique,
absolument,
chez les scientifiques et chez les médecins nutritionnistes. Alors, l'ostéopourose, ça c'est le premier thème dont vous parlez dans le livre. Les laitages protègent-ils de l'ostéopourose ? Ce qui est avancé, c'est que l'ostéopourose est due à un manque de calcium, avec ce programme national nutrition santé, qui conseille donc de consommer des laitages pour prévenir l'ostéopourose. Comment est-ce que ce programme pourrait se tromper à ce point ?
Alors, c'est très intéressant comme question parce que, vous savez, quand on isole un facteur, une cause et un effet, je vais vous donner quelques exemples. Ça fait très longtemps qu'on sait que fumer peut donner le cancer. Aux États-Unis, dans les années 90, quand de manière très draconienne, on a commencé à interdire la consommation de cigarettes dans les lieux publics, eh bien, ça n'a pas tardé. On voit aujourd'hui les taux de cancer et la mortalité par cancer baisser. En France, lorsqu'on s'est dit que la vitesse était responsable de la mortalité routière, on a fait baisser la vitesse sur les autoroutes, on a vu la mortalité baisser. Et là, on a le même exemple. Si c'est aussi simple que ça que de dire consommer plus de calcium, ça prévient l'ostéoporose, on aurait dû voir depuis longtemps en France notamment, où la consommation de lait a été multipliée par 4 en 50 ans, par personne, on aurait dû voir les taux d'ostéoporose baisser. On aurait dû réduire cette maladie. Or, c'est le contraire qui se passe. Ils augmentent de 4% par an. Il y a un problème. Il y a forcément quelque chose qui ne colle pas.
Alors, 200 millions de femmes sont concernées dans le monde. Alors, que dit justement, on en parlait déjà tout à l'heure, un petit peu les études épidémiologiques ou cliniques qui ont été conduites pour savoir justement si ce supplément de calcium laitier rendait les os plus solides.
Eh bien, les études sont catégoriques. La dernière, elle a été publiée en 2005. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de plus de 50 études. Et elle conclut qu'il est absolument inexact de dire que en consommant plus de laitage, on aura des œufs en meilleure santé. Les auteurs disent c'est complètement aberrant de tenir ce discours. Mais ce sont des scientifiques qui le disent. Je ne parle pas des nutritionnistes. Les nutritionnistes, ce sont des médecins, ce ne sont pas des scientifiques. Donc, lorsqu'on interroge les scientifiques, ils disent il n'y a absolument aucune raison d'encourager la consommation de laitage. Bon, il serait bon qu'on écoute ce message.
Alors, expliquez-nous comment, justement, et pourquoi est-ce qu'on risque d'avoir des os moins solides en buvant plus de lait? Comment on l'explique ça? Comment ça marche le calcium et l'excès donc de calcium, hein, si je vous comprends
bien? Alors, ce qu'on suspecte aujourd'hui, puisqu'on voit que les populations consomment le plus de lait, les groupes qui consomment le plus de lait sont ceux, finalement, qui sont touchés par l'ostéoporose. Or, ces gens-là, les femmes notamment, elles ont des os très lourds jusqu'à 25-30 ans. Pourquoi ? Parce que, justement, on encourageait la consommation de calcium laitier. Et là, il faut comprendre ce que c'est que l'os. Je vais essayer d'être bref et de ne pas faire un cours de biochimie. Mais l'os, c'est un organe vivant. Il se construit à tout instant et il se détruit. Il y a des cellules qui construisent l'os et des cellules qui détruisent l'os. Et ce mouvement permanent s'appelle le remodelage osseux. Aujourd'hui, les nutritionnistes sont persuadés qu'il faut accélérer ce mouvement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le maximum de facteurs qui vont faire que la construction de l'os va être optimisée. Or, nous pensons, et là je me réfère à mes conversations avec des scientifiques, nous pensons que il y a un risque à faire ça. C'est que quand vous stimulez la construction de tissus osseux, vous stimulez une classe de cellules qui s'appelle des ostéoblastes, qui déposent en quelque sorte la matière osseuse. Or, cette classe de cellules, elle n'a pas, nous n'avons pas un stock infini.
Le corps élimine ses excès, de toute façon.
Le corps, il va faire des os très lourds et très solides pendant 20 ans parce que vous avez consommé du lait. Et dans le lait, il y a du calcium, il y a des facteurs de croissance qui vont favoriser cette progression du tissu osseux. Mais ce faisant, vous coupez, en quelque sorte, dans la deuxième partie de la vie, des possibilités que pourrait représenter ce stock de cellules que vous avez surstimulé. Un peu comme si vous vous alignez sur un marathon et vous commencez à sprinter. Vous allez tenir 3-4 kilomètres et puis ensuite vous allez terminer dernier.
Une question de Marie-Françoise qui est à Orléans. Il y a beaucoup de courriels qui arrivent. Vous répondrez tout à l'heure aux auditeurs. Mais cette question pour commencer, les pays asiatiques ne consommaient traditionnellement aucun laitage ni fromage. Quelle est la situation osseuse de ces personnes?
Eh bien, elle est très simple. Je vais vous prendre le cas du Cambodge, par exemple. Au Cambodge, l'Organisation mondiale de la santé considère qu'il n'y a pas d'ostéoporose, c'est-à-dire qu'ils ne la mesurent même pas. Cette maladie est inexistante. En Chine, au Japon, l'ostéoporose, les cas de fracture du col du fémur, c'est 4 fois à 5 fois moins qu'en Europe. Les fractures vertébrales sont moins importantes qu'en Europe, mais pas dans cette proportion-là.
Mais vous parlez quand même d'une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong.
Alors, il y a une épidémie d'ostéoporose à Hong Kong.
Qui n'existe pas en Chine continentale.
Absolument pas. Vous prenez les populations qui ont peuplé Hong Kong en Chine continentale, elles ne connaissent toujours pas l'ostéoporose, elles consomment très peu de calcium et très peu de laitage. La consommation de calcium, c'est 300 à 400 mg par jour en Chine continentale, et à Hong Kong, c'est quasiment les consommations que nous connaissons. Et le mode de vie alimentaire occidental, c'est-à-dire que les enfants sont bourrés de laitage, de yaourt, et on voit aujourd'hui se développer l'ostéoporose. Et là, on est dans une situation absolument abracadabrantesque en quelque sorte, parce que on a favorisé ce mode de consommation pro-laitier, et au lieu d'avoir soit maintenu les taux d'ostéoporose à ce qu'ils étaient, soit même les faire baisser, ce qui aurait été difficile, et ils rejoignent ceux que nous connaissons en Europe.
Thierry Soucard, les mensonges et propagande, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. On vous retrouve dans quelques minutes avec les courriels des auditeurs sur franceinter.com. Nous sommes avec Thierry Soucard, dernière mini-mission avec les courriels des auditeurs pour parler du lait, mensonges et propagande aux éditions Thierry Soucard, avec la préface du professeur Henri Joyeux, cancérologue. Le courriel d'Étienne qui habite à Lausanne. Il y a des raisons culturelles, nous dit-il, pour le développement des laitages en Europe. Entre autres, les pays nordiques manquent de vitamine D. De plus, le rachitisme est une maladie qui a disparu de nos contrées. Alors, trop de lait, comme toute chose, ça n'est pas bon. Par contre, pas de lait sans changer notre régime pour un régime cambodgien, par exemple, serait encore pire. Il est médecin et scientifique. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Eh bien, je pense qu'il est inexact de dire qu'en consommant plus de lait, on a plus de vitamine D. C'est exactement le contraire, puisque le calcium du lait écrase la vitamine D circulante. Donc, en consommant plus de lait, on a moins de vitamine D. Et c'est d'ailleurs le cas des pays scandinaves dans lesquels les taux de cancer liés à un manque de vitamine D sont très élevés, notamment le cancer de la prostate. Et le problème, en termes de risque, c'est celui-ci, justement.
Daniel dit ceci, n'est-il pas vrai que la consommation de produits laitiers aide à la croissance? On va revenir donc sur les pays du nord de l'Europe qui consomment le plus de produits laitiers, mais c'est aussi, dit-il, dans ces pays que l'on trouve les gens les plus grands. Et en Extrême-Orient, où l'on ne consomme que peu de lait, la taille moyenne est bien en dessous de la nôtre.
Et c'est tout à fait exact. Il y a un lien direct entre la consommation de lait et la taille. On voit bien que les adolescents, même en France, ont poussé ces deux dernières décennies. C'est lié notamment aux protéines laitières. Et c'est aussi le problème auquel on est confronté en science, c'est que on ingère lorsqu'on est enfant des facteurs de croissance qui vont rester actifs durablement à l'âge adulte. Donc ils vont faire pousser, mais s'il y a un accident cellulaire du type lésion d'une cellule, ça peut également être un accélérateur pour certains types de cancers.
Laurent vous demande ce qu'il en est du régime alimentaire de nombreux Indiens qui sont végétariens et dont le principal apport protéique, d'origine animale provient de l'étage, justement.
Des Indiens végétariens dans le... Ouais. Alors, il faut savoir que dans les végétaux, il y a énormément de protéines. Il y a dans les feuilles, par exemple, ou les légumes, il y a à peu près 20 grammes de protéines de très bonne qualité pour 100 grammes de matière sèche.
Un courriel de Richard. Est-ce que ça n'est pas la consommation massive, voire outrancière, qui est dangereuse? Si l'on nuance sa prise de laitage, un yaourt par semaine, dit-il, est-ce que ça n'est pas tout de même un apport correct de calcium?
Alors, il n'y a pas de crise d'apport du calcium en France. On manque pas de calcium. Donc, il faut pas se préoccuper des aliments sous la forme d'apport en médicaments, en quelque sorte d'apport en nutriments, mais leur qualité gustative. Si on aime les laitages, effectivement, il n'y a aucun risque à consommer modérément du fromage ou du yaourt.
Alors, où peut-on trouver du calcium ailleurs que dans les laitages?
Alors, on en trouve partout. On en trouve dans les végétaux, on en trouve dans les eaux minérales. Mais je crois qu'il est très important de comprendre que c'est pas en consommant plus de calcium qu'on aura plus de calcium dans l'os. On peut consommer beaucoup de calcium et le perdre en grande partie simplement parce qu'on va absorber ce qu'on a appelle une charge acide nette. C'est-à-dire qu'on va acidifier l'organisme et sa manière de se défendre, c'est de puiser dans le calcium osseux. Donc si vous consommez beaucoup de fruits et de légumes, vous amenez au contraire une charge alcaline nette qui va retenir et fixer le calcium. Et dans ces conditions, on n'a plus besoin de rechercher à tout prix des sources formidable de calcium.
Alors, vous parlez dans le livre de la digestion du lait. Vous dites que 75% des habitants de la planète ne seraient pas capables de digérer le sucre du lait.
Le sucre du lait,
ça, c'est le lactose. Ouais. D'abord, d'où vient ce chiffre, 75%?
Des études épidémiologiques qui ont été faites sur plusieurs populations de tout pays. Et en France, je peux vous donner le chiffre, c'est à peu près 40-45% de la population qui ne digère pas, qui a du mal à digérer le lait, et notamment dans la partie méridionale du pays.
Pourquoi?
Eh bien parce que la partie méridionale du pays, les ancêtres de ceux qui, comme moi, habitent ou sont originaires du Midi, n'étaient pas éleveurs, donc ils n'ont pas eu cette mutation. C'est une mutation qui, dans les pays d'Europe du Nord et les pays scandinaves, permet de digérer le lait. Ça concerne 25% des habitants de la planète.
Et quels sont les symptômes de l'intolérance au lactose, justement?
Eh bien, c'est surtout des douleurs abdominales, des diarrhées, et ça peut se traduire également par des problèmes articulaires, des problèmes ORL, mais essentiellement, le diagnostic, c'est des problèmes digestifs.
Brigitte dit ceci, il y a quelques années, mon médecin de l'époque m'avait parlé des théories du docteur Seignelay sur les méfaits du lait, mais rares sont les médecins qui le connaissent. Personnellement, je ne consomme plus de laitage, mais j'ai de fortes pressions du pédiatre ou des puéricultrices pour que j'en donne à mon bébé après l'allaitement. Qu'en pensez-vous? Les jeunes enfants en ont-ils besoin?
Il n'y a absolument aucune obligation de consommer des laitages, et ne pas en consommer n'expose à aucun risque de santé.
Les pays où l'on consomme beaucoup de lait ne sont-ils pas aussi ceux où l'on vit le plus vieux, ce qui expliquerait le nombre élevé de cas d'ostéoporose, demande Annie à Valence.
Et oui, mais non, parce que les chiffres que je donne dans le livre sont ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils sont calculés, on appelle ça en anglais age adjusted, c'est-à-dire ils sont ajustés à l'âge. C'est-à-dire qu'on regarde en Chine les femmes de 50 ans et on les compare aux Américaines ou aux Européennes ou 60 ans ou 70 ans.
Clotilde demande ceci, si le lait n'a pas d'apport prouvé, d'où viennent alors les propriétés qui lui sont associées? Comment ont-elles été déterminées?
Eh bien, vous savez, je peux arriver à vous persuader de l'intérêt de consommer 2 kilos de foie de veau par jour. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent.
C'est que les lobbies pour vous?
Ah, essentiellement, oui. C'est clair, oui. Ça ne fait pas de doute.
Julien, qu'en est-il des produits laitiers fermentés?
Les produits laitiers fermentés sont des produits dans lesquels il y a des bactéries, qui sont des bactéries lactiques, et qui sont intéressantes. Ces bactéries sont intéressantes. Ce qui est ennuyeux, c'est d'avoir des bactéries intéressantes pour la flore digestive associées à un aliment qui finalement ne l'est pas beaucoup. Et on pense souvent qu'on ne trouve ces bactéries que dans les yaourts, et j'aimerais dire ici que ça n'est pas vrai. Vous avez des cornichons, vous avez des olives, de la choucroute, tous ces produits sont fermentés. Tous les produits fermentés contiennent des bactéries qui sont intéressantes pour le tube digestif.
Qu'en est-il du scandale du lait en poudre Nestlé distribué aux enfants africains et responsable de la mort de milliers d'entre eux, demande Antoine à Paris.
Eh bien, c'est poussé à son extrême. Ça a été fait en Europe également, hein, mais c'est poussé à son extrême l'expression d'un lobby qui cherche à tout prix effectivement à vendre, avec des conséquences là qui sont pour le continent africain dramatiques, puisque les mères qui renoncent à l'allaitement non seulement n'apportent pas les nutriments de manière idéale à leurs enfants, mais en plus elles les exposent à un risque important de contamination microbienne, puisqu'on utilise pour faire des biberons des eaux qui sont mal stérilisées. L'Organisation mondiale de la santé a fortement critiqué ces pratiques.
Allez, très rapidement, Frédéric, au Luxembourg, quid des autres laits, lait de jument, de chèvre?
Alors, ce n'est pas exactement des laits, hein. Ce sont des, ce qu'on appelle des laits végétaux. Bon, je pense
que de chèvre.
Pardon.
De chèvre.
Excusez-moi.
Chèvre jument. Donc on est bien dans l'animal.
On est dans l'animal. Oui. Bon, probablement moins de risques, parce que comme je l'explique dans le livre, le lait de vache aujourd'hui est issu de vaches dont on a sélectionné la taille, qui sont des vaches qui apportent en plus du lait des facteurs de croissance à une hauteur très importante.
Thierry Soucard, merci beaucoup. Les mensonges et propagande. Ce livre donc est publié chez vous aux éditions Thierry Soucard. Merci d'être venu dans la tête au carré. Le sucre du lait.
Le sucre du lait.
Ça, c'est le lactose. Ouais. D'abord, d'où vient ce chiffre, 75%?
Des études épidémiologiques qui ont été faites sur plusieurs populations de tout pays. Et en France, je peux vous donner le chiffre. C'est à peu près 40-45% de la population qui ne digère pas, qui a du mal à digérer le lait, et notamment dans la partie méridionale du pays.
Pourquoi ?
Eh bien parce que la partie méridionale du pays, les ancêtres de ceux qui, comme moi, habitent ou sont originaires du Midi, n'étaient pas éleveurs, donc ils ne se sont pas, ils n'ont pas eu cette mutation. C'est une mutation qui, dans les pays d'Europe du Nord et les pays scandinaves, permet de digérer le lait. Ça, ça concerne 25% des habitants de la planète.
Et quels sont les symptômes de l'intolérance au lactose, justement ?
Eh bien, c'est surtout des douleurs abdominales, des diarrhées, et ça peut se traduire également par des problèmes articulaires, des problèmes ORL, mais essentiellement, le diagnostic, c'est des problèmes digestifs.
Brigitte dit ceci, il y a quelques années, mon médecin de l'époque m'avait parlé des théories du docteur Seignelay sur les méfaits du lait, mais rares sont les médecins qui le connaissent. Personnellement, je ne consomme plus de laitage, mais j'ai de fortes pressions du pédiatre ou des puéricultrices pour que j'en donne à mon bébé après l'allaitement. Qu'en pensez-vous? Les jeunes enfants en ont-ils besoin?
Il n'y a absolument aucune obligation de consommer des laitages, et ne pas en consommer n'expose à aucun risque de santé.
Les pays où l'on consomme beaucoup de lait ne sont-ils pas aussi ceux où l'on vit le plus vieux, ce qui expliquerait le nombre élevé de cas d'ostéoporose, demande Annie à Valence.
Et oui, mais non, parce que les chiffres que je donne dans le livre sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont calculés. On appelle ça en anglais age adjusted, c'est-à-dire ils sont ajustés à l'âge. C'est-à-dire qu'on regarde en Chine les femmes de 50 ans et on les compare aux Américaines ou aux Européennes ou 60 ans ou 70 ans.
Clotilde demande ceci, si le lait n'a pas d'apport prouvé, d'où viennent alors les propriétés qui lui sont associées? Comment ont-elles été déterminées?
Eh bien, vous savez, je peux arriver à vous persuader de l'intérêt de consommer 2 kilos de foie de veau par jour. Hein. Il suffit d'avoir un peu d'argent.
C'est que les lobbies pour vous ?
Ah, essentiellement, oui. C'est clair, oui. Ça ne fait pas de doute.
Julien, qu'en est-il des produits laitiers fermentés ?
Les produits laitiers fermentés sont des produits dans lesquels il y a des bactéries, qui sont des bactéries lactiques, et qui sont intéressantes. Ces bactéries sont intéressantes. Ce qui est ennuyeux, c'est d'avoir des bactéries intéressantes pour la flore digestive associées à un aliment qui finalement ne l'est pas beaucoup. Et on pense souvent qu'on ne trouve ces bactéries que dans les yaourts, et j'aimerais dire ici que ça n'est pas vrai. Vous avez des cornichons, vous avez des olives, de la choucroute, tous ces produits sont fermentés. Tous les produits fermentés contiennent des bactéries qui sont intéressantes pour le tube digestif.
Qu'en est-il du scandale du lait en poudre Nestlé distribué aux enfants africains et responsable de la mort de milliers d'entre eux, demande Antoine à Paris.
Eh bien, c'est poussé à son extrême. Ça a été fait en Europe également, hein, mais c'est poussé à son extrême l'expression d'un lobby qui cherche à tout prix, effectivement, à vendre, avec des conséquences là qui sont pour le continent africain dramatiques, puisque les mères qui renoncent à l'allaitement non seulement n'apportent pas les nutriments de manière idéale à leurs enfants, mais en plus elles les exposent à un risque important de contamination microbienne, puisqu'on utilise pour faire des biberons des eaux qui sont mal stérilisées. L'Organisation mondiale de la santé a fortement critiqué ces pratiques.
Allez, très rapidement, Frédéric, au Luxembourg, quid des autres laits, lait de jument, de chèvre?
Alors, ce n'est pas exactement des laits, hein. Ce sont des, ce qu'on appelle des laits végétaux. Bon, je pense que
de chèvre.
Pardon.
De chèvre.
Excusez-moi.
Chèvre et jument. Donc on est bien dans l'animal.
On est dans l'animal. Oui, oui. Bon, probablement moins de risques, parce que comme je l'explique dans le livre, le lait de vache aujourd'hui est issu de vaches dont on a sélectionné la taille, qui sont des vaches qui apportent en plus du lait des facteurs de croissance à une hauteur très importante.
Thierry Soucard, merci beaucoup. Lait, mensonges et propagande. Ce livre donc est publié chez vous aux éditions Thierry Soucard. Merci d'être venu dans La Tête au Carré.